Bonjour et bienvenue, c'est l'émission Les Voix de service quotidien en ce 3 novembre 2017. Hélène Denis qui vous accompagne. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes venu travailler en scooter?
Oh oui.
Oui, je pense que je me suis stationnée en face de votre
scooter.
Mais pas en face, devant même. Et j'ai fait bien attention.
Ah, vous êtes bien aimable. Mais la plupart des gens font attention quand on ne roule pas.
Ben moi, quand les gens roulent, je fais aussi attention. Mathieu,
oui.
Les éphémérides, c'était très, très riche en événements. Le premier, le 2 et le 3, est-ce que c'est la même
chose? Le 3, tout autant.
Ah oui?
D'ailleurs, le 3 novembre, il vous reste 58 jours pour être gentil.
Ok, je pensais que vous alliez dire avant Noël.
Non, non, quand même. Je me garde une petite gêne. Non,
oui,
en fait,
merci.
C'est que c'est la journée mondiale de la gentillesse aujourd'hui.
Ah oui, soyons gentils.
Exact.
Est-ce que vous êtes un homme gentil, vous?
En 2013, Denis... J'ai écouté, c'est pas à moi le dire. Je pense que oui. Je sais plus par où commencer. Là.
J'aime ça vous déstabiliser.
Vous êtes bien
un
aimable,
peu.
Surtout que j'ai besoin de ça.
Oui, mais vous m'avez dit que je suis aimable. Oui, je suis gentil. Alors, allez-y.
1644, je pars à l'inverse. Le premier mariage chrétien recensé d'un colon avec une Amérindienne en Nouvelle-France, Martin Prévost épouse Marie Manitoabevitch.
Oh, oui. C'est pas facile.
En 1667, par le traité de Westminster, l'Angleterre rend l'Acadie à la France, ce qui prendra effet avec le traité de Bréda en 1670. En 1903, à l'arrivée du croiseur Nashville, Panama se déclare indépendant de la Colombie. Les États-Unis pourront ainsi mener à bien le percement du canal. Nous avons en 1904, la réélection de Wilfrid Laurier comme premier ministre du Canada. En 1953, la Radio Corporation of America réalise à NBC la première télédiffusion en couleur et à l'échelle des États-Unis. En 1957, c'est la chaîne Laika qui, à bord du Sputnik 2, devient le premier être vivant à voyager dans l'espace. Elle a survécu 7 heures. En 57 toujours, à Chalk River, en Ontario, c'est l'inauguration d'un réacteur atomique. Richard Nixon est élu président des États-Unis en 1968. En 75, c'est l'inauguration du premier aléoduc sous-marin amenant en Écosse du pétrole extrait de la mer du Nord. Plus de 30 000 personnes défilent devant le cercueil de René Lévesque en 1987 dans l'ancien palais de justice à Montréal. À la présidentielle, Bill Clinton bat le sortant George Bush. Ça, c'était en 1992. En 2004, Hamid Karzai remporte la présidentielle en Afghanistan, devenant le premier président du pays élu au suffrage direct. Il y en a d'autres. En 2009, la Sûreté du Québec arrête 10 personnes du milieu de la construction dans la région de Montréal. En 2010, la Cour d'appel du Québec renverse le jugement Lola, une femme qui avait échoué dans sa tentative d'obtenir une pension alimentaire de son ex-conjoint millionnaire. Et en 2013, Denis Coderre est élu à la mairie de Montréal, Marc Demers à celle de Laval et Maxime Pedneau-Jobin à celle de Gatineau, ainsi que les maires de Québec, de Longueuil, de Saguenay et de Sherbrooke sont réélus. C'est tout. Bonne journée. À la semaine prochaine.
Merci vous aussi. En une de la presse, exclusif, demande d'asile au Canada, des migrants omettent de se présenter devant les autorités. De nombreux migrants qui ont traversé la frontière cet été pour demander l'asile négligent de compléter leur dossier à temps et de se présenter aux audiences convoquées par les autorités. Section affaires, importations privées, la SAQ et les agences à couteau tiré. Les chroniques d'Yves Boisvert, élections municipales 2017, l'étrange campagne de Denis Coderre et la chronique de Francis Vaille, collusion à l'AMF et à l'UPAC, des allégations ésotériques. Cinéma, portrait, le pur plaisir du cinéma, le cinéaste Michel Hazanavicius, oscarisé pour The Artist et de passage à Montréal. La chronique d'Yves Boisvert, l'étrange campagne de Denis Coderre. À force de ne pas vouloir de campagne, Denis Coderre se retrouve, à quelques jours des élections, sérieusement à risque de perdre la mairie. Si ça arrive, ce sera bien de sa faute et pas parce qu'il fait face à une adversaire redoutable. Valérie Plante est sympathique, pleine d'enthousiasme, mais elle a bénéficié d'un laissez-passer médiatique encore plus généreux que la multitude de cartes de transport en commun qu'elle veut distribuer si elle devient maire. Son projet phare, la fameuse ligne rose, comprend 18 stations et elle en évalue le coût à 5,9 milliards, à peu près 300 millions par station. L'an dernier, elle estimait le coût d'une station à 600 millions, ce qui semble passablement plus réaliste compte tenu des dernières constructions. Les évaluations de passagers sont aussi fort discutables, mais que le projet s'élève à 6 milliards ou à 12 milliards, qu'il transporte 50 000 ou 250 000 personnes, pas grave, l'argent viendra du fédéral et de sa banque de l'infrastructure. Au moment où le REM se construit, c'est de la pensée magique et ça tient avec de la ficelle. Mais qui ne veut pas d'une nouvelle ligne de métro? Et rose en plus. Valérie Plante marque des points assez faciles avec la congestion routière. Qui n'est pas écœuré des chantiers, de ces trous où personne ne travaille, des bouchons? Elle promet des escouades et des brigades pour inspecter en profondeur les chantiers, chicaner les entrepreneurs qui bloquent une voie de trop, coordonner les travaux, etc. On connaît la chanson. Tous les candidats ont promis ça. La vérité, c'est que cette ville, comme la plupart des grandes villes nord-américaines, voit ses infrastructures des années 60 et 70 tomber en décrépitude toutes en même temps. L'entretien a été négligé. Il y aura des chantiers pour les années à venir, et c'est tant mieux. Ce n'est pas la faute du maire et le prochain maire n'y changera rien à moins de reporter tout ça à la prochaine génération. À côté des chantiers de la ville, il y a, léger détail, le pont le plus achalandé au Canada qui est construit et détruit en même temps. Les tagliatelles en béton de Turco à détruire en construisant ce qui les remplacera. Alors je recommence. Les tagliatelles en béton de Turco à détruire en construisant ce qui les remplacera. Il y a aussi tout ce qui ralentit le trafic pour cause de bonnes nouvelles, les constructions nouvelles. Il y a par ailleurs une légère ironie à voir la chef de Projet Montréal se soucier de transport automobile. Un des objectifs déclarés et des succès de la gestion de projet sur le plateau a été de réduire la circulation automobile locale. On l'a fait dévier sur des artères principales. Tout ça est parfaitement légitime, justifié et populaire, entre parenthèses, maintenant. La conséquence logique de ce déplacement est que le moindre trou sur ces artères entraîne plus de ralentissements et qu'il y a moins de solutions de rechange. Projet a bien des qualités, mais circulation fluide, pas sûr. Si Denis Coderre perd, ce sera bien de sa faute, disais-je, notamment en raison de cette attitude soupe au lait face aux journalistes et aux opposants. Ce que Radio-Canada a colligé, ce que Katia Gagnon a exposé dans la presse, tout le milieu médiatique le sait. Ce petit côté autocrate n'est pas loin sous la surface riante. La pimpante Valérie Plante, qui ne prend ombrage d'aucun reproche, dont le sourire est inaltérable, offre un sacré contraste. Il y a entre elle et notre milieu médiatique une connexion naturelle, presque anthropologique. Bien sûr, quand elle traite Denis Coderre de « mon oncle », tout le monde rit sous cape. Personne n'ira protester. Il est comme ça, Denis. C'est vrai aussi que le truc de Coderre est usé, sortir et ressortir l'épouvantail de Luc Ferrandez. Le style vintage de Denis Coderre n'a pas trop la cote. Mais est-ce que tout se résume au style? Ce « mononcle », entre guillemets, atrabilaire, a pourtant réussi une chose assez inattendue. Réunir et garder autour de lui une coalition improbable de gens aux horizons politiques opposés. À peine élu, il ralliait ses adversaires Marcel Côté et Richard Bergeron, le chef de l'opposition. Lui, le libéral fédéral, s'est entouré de plusieurs souverainistes de diverses générations, de Réal Ménard à Elsie Lefebvre ou Adrien Parizeau. Cathy Wong, qu'on associerait plus volontiers aux militants de projet, est avec Coderre, et ainsi de suite. Mais il a fallu une série de mauvais sondages pour qu'hier, finalement, Richard Bergeron vienne à la rescousse de son maire et en fasse un éloge vibrant. Denis Coderre a fait un one-man show médiatique et c'est maintenant que son équipe apparaît. Il est bien tard, monsieur le maire. Le maire Coderre a aussi cette manie de mettre sous le tapis tout ce qu'il ne veut pas montrer, comme si ça allait disparaître. L'histoire de la Formule E est clownesque. Mais ces décisions autoritaires et intempestives, même les moins bonnes, étaient au moins sous le signe du développement et du rayonnement de la ville. On peut juger qu'elles ont été mal avisées, complaisantes dans certains cas, entre parenthèses, Evenco dans les îles, mais je me souviens trop de Gérald Tremblay incapable de prendre position, somnambule dans son hôtel de ville à la dérive. Je me souviens trop clairement de cette période sombre pour ne pas voir ce qui a changé à Montréal depuis 4 ans. Cette ville continue à s'embellir, cette ville a un élan économique et culturel, cette ville bouge enfin. Si on ne lui en attribue aucun mérite, c'est qu'il a vraiment, mais vraiment raté sa campagne. Si Valérie Plante est élue avec un programme rose bonbon plein de vertus, mais assez mince en substance, c'est que vraiment, mais vraiment, les Montréalais se sont tannés vite du style Coderre et ont oublié le reste. Parce que même s'il n'en a pas convaincu les Montréalais sur le fond des dossiers, développement économique, redressement éthique, vivre ensemble interculturel, lien avec les gouvernements, statut de métropole, me semble que Denis Coderre a dû faire 2-3 choses pas entièrement mauvaises. C'est la chronique d'Yves Boisvert dans la presse d'aujourd'hui, l'étrange campagne de Denis Coderre. D'ex-collaborateurs et ex-employés du chef réputé Giovanni Apollo, 7 hommes et femmes allèguent sous le couvert de l'anonymat qu'ils ont été victimes ou témoins d'inconduites sexuelles, d'abus de pouvoir et d'intimidation de la part du restaurateur dans un reportage diffusé par Radio-Canada, ce que nie le principal intéressé. Exclusif à la presse, Jacques Desjardins, 68 ans, frère du caïd Rénal Desjardins, a quitté sa résidence de Laval pour aller à un rendez-vous vers 8 heures lundi matin. Il n'est pas revenu et n'a jamais donné de nouvelles depuis, contrairement à ses habitudes. Inquiète, sa famille a communiqué avec la police de Laval qui a amorcé une enquête, a appris la presse. Le véhicule utilisé par Desjardins, une Volkswagen Passat 2016 de couleur blanche, a été retrouvée inoccupée mercredi rue Médard-Bourgault dans le quartier Sainte-Rose. La police de Laval a confirmé les informations obtenues par la presse hier, sans toutefois donner davantage de détails. Jacques Desjardins, de 4 ans l'aîné de Rénald, occupait une bonne place auprès de son frère dans les vieux organigrammes du crime organisé de la police durant les années 90, alors que les enquêteurs le considéraient comme un importateur de drogue et un homme qui avait beaucoup de contacts en Amérique du Sud. Mais son nom est toutefois très peu prononcé ici depuis plusieurs années. L'époque des pompiers accourant sur les lieux d'une crise cardiaque à bord de leur imposant camion autopompe pourrait bientôt être révolue. L'administration Coderre évalue la possibilité de doter le service incendie de plus petits véhicules afin d'améliorer l'efficacité des interventions de premiers répondants. 85 000, c'est le nombre d'interventions de premiers répondants réalisées par les pompiers de Montréal en 2016. Depuis 2007, les pompiers de Montréal n'interviennent plus uniquement lors des incendies, mais peuvent être appelés à l'aide à la suite d'un accident de la route ou même pour une intervention médicale d'urgence. De fait, le travail de premiers répondants est depuis devenu le principal motif de sortie des pompiers. Devant ce changement profond au travail des pompiers montréalais, l'ex-candidat à la mairie Marcel Côté, qui avait rallié Denis Coderre à la suite de l'élection de 2013, avait suggéré d'imiter certaines villes canadiennes ayant doté leurs pompiers de camionnettes pour mener ces interventions. « Ça, je suis d'accord. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Oui, c'est pertinent », a indiqué Denis Coderre lors d'une récente entrevue à la presse.
Voici la ronde des jurons qui chantaient clair, qui danseront. Quand les Gaulois de bonne aloi du franc-parler suivaient la loi, jurant par là, jurant par-ci, jurant ta langue raccourcie, comme des grains de chapelet, les joyeux jurons défilaient. Tous les morts bleus, tous les ventres sacre bleu et les cornes gidouillent ainsi par bleu que les jarnies bleues et les pales sont bleues. Tous les cristis, les ventres sans gris, les parmes barbes et les noms d'une pipe ainsi par dit que les sapristis et les sacristis. Sans oublier les jarnicotons, les scrogneux, les bigrés, les bougres, les saperlottes, les crénons de nom, les pestes et poites et entre fiches très foutre, tous les bons dieux, tous les vertus dieux, tonnerre de Brest et sa perlipopette, ainsi par Dieu, que les jarnis dieux et les passes que Dieu. Quelle pitié, les charretiers ont un langage châtillé. Les harengères et les mégères ne parlent plus à la légère. Le vieux catéchisme poissard n'a guère plus cours chez les hussards. Ils ont vécu des profondis, les joyeux jurons de jadis. Tous les morts bleus, tous les ventres bleus, les sacres bleus et les cornes gidouillent ainsi par bleu que les jarnies bleues et les pales sans bleu. Tous les cristis, les ventres sans gris, les parmes barbes et les noms d'une bibe ainsi par dit que les sapristis et les sacristis. Sans oublier les jarnicotons, les scrogneux, les bigrés, les bougres, les saperlottes, les crénons de nom, les pestes et poites, et entre fiches très foutre, tous les bons dieux, tous les vertus dieux, tonnerre de Brest et sa perlipopette, ainsi par Dieu, que les jarnis dieux et les passes que Dieu.
Vous avez sans doute peut-être connu Christian Roberge, qui faisait partie de Lost Fingers, qui chante la chanson « Je suis en train de perdre... » Oui, la ronde des jurons, sur son album « Planète Brassens ».
À la une du Devoir d'aujourd'hui, Amazon cartonne sans devoir contribuer au recyclage. Le commerce en ligne n'est pas assujetti à la loi québécoise. Cannabis, un expert en toxicomanie, le professeur Jean-Sébastien Fallu de l'Université de Montréal, spécialiste de la toxicomanie de l'École de psychoéducation, dénonce un certain discours alarmiste. On mélange tout, on se rend rapidement aux arguments dramatisants, c'est désolant. Livre « Les émotions sont mortes au champ de bataille », histoire de soldats recueillis par l'auteur Roxane Bouchard. Roxane Bouchard compte désormais plusieurs militaires parmi ses amis sur Facebook. « J'ai commencé à faire un peu de promo sur mon profil pour parler du livre », raconte-t-elle au sujet de « 5 balles dans la tête », un recueil de récits de guerre récoltés auprès de quelques 25 membres actifs ou retraités des Forces armées canadiennes, ayant participé à différentes missions, principalement en Afghanistan. Mystère égyptien. Des scientifiques découvrent un grand vide dans la pyramide de Khéops sans pour autant s'avancer sur son rôle. Le Redoutable, un film sur Godard ou pas? Catalogne, Madrid poursuit son offensive. Et Zeitgeist, jusqu'au dernier grain de riz, jasmin. Même si les produits qu'elles vendent génèrent de plus en plus de matière à récupérer, les entreprises de commerce électronique ne sont pas toutes tenues de financer la collecte sélective au Québec, a appris Le Devoir. Un géant comme Amazon échappe d'ailleurs à l'obligation de contribuer à ce système conçu avant le développement rapide du commerce en ligne. Au Québec, le financement de la collecte sélective des matières recyclables est assumé essentiellement par les entreprises qui mettent sur le marché des contenants, des emballages, des imprimés et des journaux de tout genre. Ces fonds servent à indemniser les municipalités pour les coûts du système de récupération qui s'élève à environ 150 millions de dollars annuellement. Pour qu'une entreprise soit assujettie au régime de compensation, Elle se doit donc d'avoir une place d'affaires, domicile ou établissement au Québec, souligne Éco-Entreprise Québec, qui représente les entreprises dans leurs obligations légales de financer la récupération. Sans cela, elles ne sont pas légalement tenues de contribuer au financement de la collecte sélective, précise l'organisme en réponse à une question concernant le cas précis d'Amazon. Les entreprises peuvent cependant choisir de se conformer volontairement au financement en signant une entente avec Éco-Entreprise Québec. Mais il n'a pas été possible de vérifier auprès d'Amazon si la signature d'une telle entente était envisagée au Québec. Au Québec, 4 adultes sur 10 font maintenant des achats en ligne et les sites les plus populaires, tant en montant d'achat qu'en volume, sont ceux d'Amazon et d'eBay. Le ministère de l'Environnement confirme d'ailleurs qu'il est en réflexion afin de trouver une manière d'ajuster sa réglementation aux problèmes associés à la nouvelle réalité du commerce en ligne. La peur de l'UPAC s'installe au Parlement. L'unité permanente anticorruption laisse courir la rumeur que des élus de l'Assemblée nationale sont pris en filature. L'état-major de l'unité policière a indiqué sans embâge mardi après-midi qu'il n'épiait pas des journalistes dans le cadre de son enquête sur des fuites d'informations confidentielles provenant de son quartier général. Il refuse toutefois de répondre aussi clairement lorsqu'on lui demande s'il surveille à ce moment-ci des membres de l'Assemblée nationale. « Je ne peux pas répondre à ces questions-là », a affirmé la porte-parole de l'UPAC, Anne-Frédérique Laurence, dans un entretien téléphonique avec Le Devoir jeudi. « Chose certaine, tous les acteurs de la colline parlementaire, y compris le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, seront tenus dans l'ignorance si l'UPAC prend en filature un élu. On n'informe pas de nos enquêtes le président de l'Assemblée nationale », fait remarquer Mme Laurence. Le Québec n'a pas encore vu la neige, sauf pour certaines régions plus au nord, mais ce n'est qu'une question de temps. L'Alberta, elle, est déjà frappée par une tempête qui, d'ici samedi, devrait ajouter jusqu'à 40 cm de neige aux 15 cm de neige déjà tombés. Mais ce ne sont pas les alertes de tempête hivernale lancées par Environnement Canada jeudi qui allaient empêcher Teddy, un poney Shetland, d'aller trotter à travers champs. Il y a une magnifique photo, justement, de ce poney avec un petit peu de neige blanche sur son pelage qui traverse donc un champ enneigé. Service en français, fini le temps des excuses d'Air Canada, estime des élus. Les blâmes visant Air Canada pour non-respect de ses obligations en matière de bilinguisme se suivent et se ressemblent. Aussi, les parlementaires à Ottawa proposent-ils de prendre les grands moyens pour assurer un service en français à bord des avions du transporteur? Ils recommandent au gouvernement de donner aux commissaires aux langues officielles le pouvoir d'imposer des amendes à la compagnie aérienne. Le rapport du Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes, rendu public jeudi, reprend ainsi à son compte une suggestion qui avait été faite l'an dernier par le commissaire de l'époque, Graham Fraser. M. Fraser demandait des dents. Il suggérait divers moyens pour dédommager plus facilement les voyageurs lésés ou pour mettre à l'amende le transporteur. Le comité d'élus fédéraux s'étant penché sur la question a choisi cette seconde option. Le député libéral Denis Paradis, qui préside le comité parlementaire, reconnaît avoir, pendant les audiences, senti la bonne volonté d'Air Canada. Mais ça ne suffit pas, la bonne volonté. Il faut qu'il y ait des résultats quelque part. La proposition du comité parlementaire va cependant beaucoup plus loin que la suggestion initiale de Graham Fraser, car elle autoriserait le commissaire à imposer des amendes non seulement à Air Canada, mais à toutes les institutions soumises à la loi sur les langues officielles. Pour pour assurer le bon déroulement du transfert des patients de l'Hôtel-Dieu vers le centre hospitalier de l'Université de Montréal, CHUM, dimanche, la direction du nouveau méga-hôpital demande à la population d'éviter l'urgence de l'Hôpital-Dieu dès maintenant. Les personnes nécessitant des soins sont invitées à se rendre dans une clinique ou une salle d'urgence à proximité de leur domicile ou pour une aide immédiate à communiquer avec les services d'urgence, indique le CHUM. Il est également déconseillé d'emprunter l'itinéraire du déménagement dimanche dès 7 heures afin d'assurer la fluidité et la rapidité des transferts. Celui-ci empruntera la rue Saint-Urbain en direction sud à partir des rues des Pins, l'avenue des Pins, puis le boulevard René-Lévesque vers l'est jusqu'à Sanguinette. L'Hôtel-Dieu est le deuxième des trois hôpitaux à emménager au CHUM après l'hôpital Saint-Luc. Le dernier transfert sera celui de l'hôpital Notre-Dame le 26 novembre. La ville de Québec a fait son entrée cette semaine dans le réseau des villes de l'UNESCO en littérature, tandis que la ville de Toronto y est classée comme ville créative en art numérique. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a nommé mardi 64 nouvelles villes à entrer dans son réseau des villes créatives. Le réseau des villes créatives de l'UNESCO, créé en 2004, met en valeur la créativité de ses membres autour de 7 domaines: artisanat et art populaire, art numérique, design, film, gastronomie, littérature et musique. Il compte désormais un total de 180 villes dans 72 pays. Celle-ci s'engage à développer et à échanger des pratiques innovantes pour promouvoir les industries créatives. La ville de Québec est la première ville francophone à obtenir ce titre. Elle avait soumis sa candidature en mettant en avant l'apport de la nouvelle maison de la littérature, la performance de ses bibliothèques publiques, l'innovation des entreprises numériques dans le domaine du livre, la présence de la Literary and Historical Society of Québec et des éditions Anonorak qui se consacrent entièrement aux écrits autochtones et la possibilité de faire un doctorat en création littéraire à l'Université Laval.
La nuit, dans ta chemise de nuit à moitié finie, t'es bien fatigué, mais tu me souris. T'as les yeux pochés, moi je te trouve jolie. Tu es la fille la plus gentille que je connais. J'ai trop bu ce soir, je vois tout en noir. Prends-moi par la main, on va aller s'asseoir. Me servirais-tu un bon café noir? Ça me fait tellement de bien de venir te voir. Tu es la fille la plus gentille que je connais. Si tu voulais, je resterais. Ça va faire 10 ans que je te connais. La plupart du temps, on se dit des secrets. Quand on se fait de la peine, c'est encore plus le fun. On se téléphone, puis on se pardonne. Tu es la fille la plus gentille que je connais. Si tu voulais, on partirait. On irait faire un tour d'auto, tout le tour de la terre. J'ai la radio, tu ferais jouer ce qui te plaît. Tu fumerais des Cravenets. Tu remplirais le cendrier. Puis tu serais l'épaule qui serait la mieux.
En cette journée mondiale de la gentillesse, nous avons pensé vous faire entendre le résultat d'une belle et fructueuse amitié entre Robert Charlebois et Régent Ducharme, qui nous a quittés le 21 août dernier. C'était la chanson « Tendresse et amitié ».
À la une du Devoir, 7 ans et demi de prison, le party est fini. Une croisière de rêve autour du monde se termine très mal pour Isabelle Lagacé, qui a transporté de la cocaïne dans ses valises jusqu'en Australie. Formule électrique, un proche d'Evenco a donné le contrat à, point de suspension, Evenco. À gauche, on voit Sylvain Vincent qui dit avoir prévenu le bureau du maire et à droite, Denis Coderre qui assure qu'il n'était pas au courant. Une maison de l'horreur, 3 bébés retrouvés morts. Le patron de la course de Formule électrique de Montréal a donné sans appel d'offres le contrat de réalisation de l'événement au promoteur Evenco alors qu'il siégeait avec les dirigeants de ce dernier au sein de la fondation Evenco. Cet homme, Sylvain Vincent, avait d'ailleurs fusionné sa propre fondation à celle d'Evenco en 2016, quelques mois avant l'octroi du contrat. La fondation Evenco pour le talent émergent vise à soutenir l'épanouissement culturel des jeunes. Le président d'Evenco, Jacques Aubé, et le copropriétaire du Canadien, Andrew Molson, siègent au sein de la fondation aux côtés de M. Vincent. De plus, alors qu'il était associé directeur du cabinet comptable Ernst & Young, la firme comptait comme client le Canadien de Montréal et Evenco. Tous ces liens n'ont pas empêché l'OSBL Montréal, c'est électrique, où M. Vincent agit comme président du CA, de confier la réalisation de la course de FE à Evenco sans appel d'offres. C'est Montréal, c'est électrique qui a signé l'entente avec Evenco. C'est eux qui ont choisi, il faudrait leur poser la question, nous a répondu le maire Denis Coderre hier. Denis Coderre était-il au courant que M. Vincent siégeait à la fondation Evenco? Je n'étais pas au courant, a-t-il affirmé, sans détour à 2 reprises hier. Joint au téléphone, Sylvain Vincent reconnaît qu'il y a une apparence de proximité importante. Oui, tout à fait, il assure toutefois avoir averti le cabinet du maire dès que Denis Coderre l'a approché en septembre 2016. J'ai déclaré immédiatement que j'étais au conseil d'administration de la Fondation Evenco. On m'a dit qu'il n'y avait pas de problème parce que, de toute façon, Evenco était déjà impliqué dans le projet depuis 2 ans avec le bureau du maire. Un juge d'instruction espagnol a placé hier en détention provisoire 8 membres du gouvernement catalan destitués pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne déclenchant des manifestations dans cette région. La même magistrate a également lancé un mandat d'arrêt européen à l'encontre du président catalan destitué. Carles Puigdemont a déclaré maître Paul Bécarp, son avocat belge, à la télévision flamande hier. Selon la police municipale, 20 000 personnes se sont rassemblées dans la soirée à Barcelone à l'appel du mouvement indépendantiste Assemblée nationale catalane. « Ce n'est pas une justice, c'est une dictature », scandaient les manifestants, ou encore « honte à l'Europe qui a refusé d'intercéder en faveur des séparatistes ». Dans son ordonnance, la juge explique l'ordre d'incarcération par le risque de fuite des inculpés. Tous sont accusés avec 2 dirigeants d'associations indépendantistes, l'ANC et Omnium, déjà incarcérés, d'avoir organisé depuis 2015 un mouvement d'insurrection active. « La simple visite à l'hôpital d'une femme de 27 ans aura permis aux policiers de faire une épouvantable découverte dans une résidence de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Les cadavres de trois bébés, vraisemblablement tués dès leur naissance au cours des trois dernières années. Déjà mère d'une fillette de 3 ans, on lui reproche aussi d'avoir omis de fournir les choses nécessaires à sa fille, ainsi que de corruption de mœurs d'enfants. Puisqu'une ordonnance de la Cour nous empêche de publier l'identité de la fillette, nous tairons aussi l'identité de l'accusé qui semblait complètement bouleversée en salle d'audience. Les policiers ont découvert le poteau rose en raison d'une visite à l'hôpital de la jeune femme le 15 octobre dernier. Elle se plaignait de douleurs au ventre. En l'examinant, les infirmières ont réalisé qu'un placenta se trouvait dans son corps. Inquiet de la situation, le personnel médical a contacté les autorités policières locales. En fouillant la résidence de l'accusé le lendemain, les policiers ont fait une effroyable découverte. Ils ont non seulement trouvé le cadavre du bébé qu'elle venait de mettre au monde, mais également ceux de 2 autres nouveau-nés en état de décomposition. Ces 2 derniers étaient issus de grossesses précédentes. Quitte à procéder par loi spéciale, Québec solidaire demande à ce que son projet de loi sur le commerce en ligne soit adopté à temps pour le magasinage des fêtes. Gabriel Nadeau-Dubois continue. Mercredi, Québec solidaire s'est allié à l'homme d'affaires Peter Simons des magasins Simons à l'occasion du dépôt du projet de loi 997 qui vise essentiellement à obliger les géants étrangers tels que Netflix et Amazon, à prélever des taxes et à payer des impôts. Il y a urgence d'agir, a insisté Gabriel Nadeau-Dubois. Déjà, depuis janvier, le commerce électronique a augmenté de 45 % au Québec. Si on n'agit pas d'ici le temps des fêtes, pour les commerçants du Québec, c'est une très mauvaise nouvelle. Ça représente des centaines de millions de dollars de perdus. Québécoise condamnée à plus de 7 ans de prison en Australie. Son amie et elle ont transporté 35 kg de cocaïne à bord d'un bateau de croisière. Isabelle Lagacé, 29 ans, avait plaidé coupable à l'accusation d'importation d'une quantité commerciale de cocaïne. Les 14 mois de prison qu'elle a déjà effectués dans l'attente de son procès seront déduits de sa peine qui prendra donc fin en février 2024. Cependant, la jeune femme pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle dès février 2021. Lagacé avait été arrêté à Sydney en août 2016 en compagnie de son amie Mélina Roberge, 23 ans, et d'un sexagénaire nommé André Jorge Tamine. De son côté, Mélina Roberge plaidait l'ignorance, affirmant ne rien savoir de la valise retrouvée dans la cabine qu'elle partageait avec Lagacé, ni de son contenu. André Tamine clamait lui aussi son innocence. Le procès de Roberge et Tamine devrait débuter au mois de février. Retour en force du Club Med au Québec. Le village de montagne ouvert à l'année au massif de Charlevoix voudra faire oublier l'échec de Montréal. Après avoir connu un retentissant échec à Montréal au début des années 2000, le Club Med revient en force au Québec. Il ouvrira un village de montagne 4 saisons au massif de Charlevoix en 2020. Le projet de 120 millions de dollars confirmé hier à Québec bénéficiera d'aides gouvernementales de 38 millions de dollars. Le Club Med nous a choisis. C'est un hôtelier de calibre international qui devient un catalyseur pour la région, a indiqué l'homme d'affaires et grand patron du groupe Le Massif, Daniel Gauthier. Le Club Med, qui est lié avec le groupe Le Massif grâce à une entente de 15 ans, prévoit une rentabilité rapide avec un taux d'occupation d'au moins 85 % en hiver et de 70 % en été. À une semaine du jour du souvenir, les élus de Québec solidaire ont choisi de porter un coquelicot blanc superposé au traditionnel coquelicot rouge afin de symboliser les victimes civiles autant que militaires. La très grande majorité des victimes sont des civils, dit le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois. Le coquelicot blanc vise à élargir le propos pour s'assurer qu'on n'oublie personne.
Danny Placard qui nous chantait Sleeping Bag. Si vous avez aimé Danny Placard, il sera avec le groupe Pony le 9 novembre à l'ESCO dans le cadre des coups de cœur francophones.
Je vais vous lire la chronique de José Blanchette d'aujourd'hui jusqu'au dernier grain de riz jasmin. Kim Thuy nous livre le secret des Vietnamiennes. Oui, il faut dire Kim Thuy, elle me l'a dit en personne. J'étais ici pour apprendre leurs secrets. Tout le monde aime les secrets. Ils rendent à l'invisible ses lettres de noblesse, font de la vie une Toussaint permanente où les ancêtres répondent présents, observent nos faits et gestes en silence. L'écrivaine Kim Thuy rend hommage aux secrets culinaires de son arbre généalogique dans son dernier livre, Un grimoire aux ingrédients odorants. Le secret des Vietnamiennes est avant tout un album de famille où toutes les éducatrices de sa vie, sa mère, grande sœur 3, ses tantes mères numérotées, tantes 4, 5, 6, 7 et 8, viennent assaisonner une cinquantaine de recettes, prétexte à échanger les confidences et à s'imprégner des effluves du pays perdu. Kim Thuy Ly Tan appelle ses tantes par le chiffre de leur rang de naissance et cette mathématique filiale en devient poétique. Ainsi, la hiérarchie s'impose dans la conversation, tout comme l'autorité, écrit leur fille pétrie de respect. La cuisine, si on en doutait, est un puissant vecteur d'amour, tantôt québécoise dans sa façon de démontrer son affection, tantôt vietnamienne dans la retenue et la pudeur du verbe. Kim Thuy espère de sa cuisine qu'elle transmette ses émotions avec une touche de piment oiseau. C'est un pouvoir extraordinaire de faire plaisir au quotidien. Tu crées la mémoire de tes enfants. Il n'y a pas de meilleure sauce Pâques que celle de ta mère, prétend cette cuisinière, ex-avocate défroquée, qui a déjà eu Pignon sur rue, son resto rue de Nam, durant 5 ans, et garde les ronds allumés de 15h à 21h chez elle pour sustenter 2 ados de 16 et 18 ans et son conjoint, dernier client au comptoir. Dans sa grande cuisine blanche, elle s'agite avec souplesse et maestra devant le mur de céramique bleue. Kim Thuy porte en elle une mama italienne et excelle dans l'al dente. Je laisse la cuisine vietnamienne à ma mère qui habite la porte à côté. Les rouleaux de printemps et bananes frites traversent sans crier gare par la porte-fenêtre. Les deux familles partagent le jardin où poussent les chayottes et les herbes qui parfument cette cuisine si digeste et délicate, faite pour supporter la moiteur ou les hivers trop longs. C'est pour rendre hommage à ses mères que Kim Thuy a conçu ce livre de « recettes » entre guillemets qui n'en sont pas à ses yeux, tant elles lui paraissent banales. Mais ce qui est le fun au Vietnam, c'est que les portes sont souvent grillagées, ou sinon elles ont des fentes en haut, en bas, ou un gros trou de serrure à travers lequel tu peux voir. Il n'y a pas vraiment de secret. Dès que tu chuchotes, tout le monde écoute. C'est Kim Thuy dans « Dis-moi qui tu es, je te dirai quoi boire ». Le fil de soie de la transmission. Les mères enseignaient à leurs filles à cuisiner à voix basse, en chuchotant afin d'éviter le vol des recettes par les voisines, qui pourraient séduire leur mari avec les mêmes plats. Les traditions culinaires se transmettaient en secret, tels des tours de magie entre maître et apprenti. Un geste à la fois, selon le rythme du quotidien, écrit Kim Thuy dans son roman « Man », dont l'histoire sera portée au grand écran. J'observe la touche à tout en douce blanchir l'okra, qu'elle réveillera sous une sauce de tofu fermenté, puis éplucher la chayotte à l'envers pour ensuite la parfumer d'aneth, cuire les œufs durs pour les servir avec la sauce poisson, coriandre fraîche, citron vert et piment rouge cueillis à l'instant dans son salon, parsemer la patate douce de paddy, une herbe qui rappelle le curry. Ces tapas légères se dégustent sans fin. On ne mange pas parce qu'on a faim, on mange pour savourer la chance de profiter de cette abondance, dit celle qui a connu l'incertitude du prochain repas, le bateau à la dérive et le camp de réfugiés. Loin de s'apesantir sur le passé, Kim Thuy est un exemple de résilience même si elle s'estime peureuse et démissionnaire. En picorant notre riz jasmin du bout des baguettes, nous devisons sur la langue, sa passion, sur le mot « aimer » décliné de dizaines de façons en vietnamien. Vous vous aimez, mais aimer amoureusement, vous ne l'avez pas. En vietnamien, tu as un mot pour aimer ton chien, un ami, ton mari. On aime un parent avec gratitude, un ami avec connivence, un mari dans le soutien et le devoir. Tandis que l'amour amoureux, c'est « yeu », « y », « e », accent circonflexe, « u ». Aucune ambiguïté possible. Ce n'est pas ton mari, entre parenthèses, sauf si vous êtes chanceux, ni un entre-deux. Elle m'explique qu'adorer possède aussi 7 ou 8 déclinaisons. On adore de façon hypnotique ou jusqu'à en perdre connaissance. Mais tous ces mots sont seulement utilisés à l'écrit. Dans le verbal, on demeure pudique, on retient ses émotions. Comme ça, l'autre ne sait pas comment nous manipuler. On croit que les goûts qui nous plaisent trop facilement doivent être modérés parce qu'ils nous abîment, alors que la saveur amère rétablit l'équilibre, dit Kim Thuy ou écrivait Kim Thuy dans Man. Une ambassadrice du Québec. C'est peu dire que Kim Thuy est amoureuse de la littérature québécoise. Elle est invitée partout à travers le monde, à l'instar d'un Danny Laferrière, pour nous représenter. Elle me parle d'un cours sur la culture québécoise à Tokyo où on étudie les deux voix narratives d'Honoré Beaugrand dans La Chasse-Galerie ou la ponctuation phraséale dans Les Fous de Bassan d'Anne Hébert. Notre littérature est étudiée partout, en Roumanie, en Inde, en Italie. Elle débarque tout juste de Pescara dans les Abruzzes italiennes, partie 36 heures cueillir un prix pour son roman « Vie », revenue à temps pour faire les lunchs à ses garçons. On peut la lire dans 25 pays et elle se fait la fière ambassadrice de Miron, de Roland Giguère ou de Sophie Bienvenue. Elle me récite de mémoire un poème d'Ernst Jende, à la fois muse et conteuse, enthousiaste et brillante. Nous sommes tellement privilégiés. Nous vivons dans un pays extraordinaire. American Dream is still here. Il faut le reconnaître, sinon on ne préserve pas. Kim Thuy a mis le pied en littérature à 40 ans avec Rue, et 9 ans plus tard, son nom est synonyme de réussite, d'intégration, de talent et de beauté. Le sens de Thuy. Entre parenthèses, alors beauté, en vietnamien, j'imagine que c'est Thuy. La belle Kim distille la sagesse de ses ancêtres au détour d'une phrase, m'apprend que je serai sa grande sœur même si je ne comptais qu'une journée de plus. L'âge et l'expérience de vie ont leur propre beauté. Ça ne s'achète pas. Si tu n'as pas vécu, tu ne peux pas savoir. Petite sœur m'apprend aussi que chaque grain de riz laissé dans le bol est un verre que je devrais manger en enfer. Pour ce qui est de mourir, nous partageons la même philosophie, elle et moi. Nous sommes assouvis. En Asie, la mort fait partie du quotidien. Je suis prête à mourir là, maintenant. Un buffet, ça s'arrête où? Moi, je dis qu'il ne s'arrête pas avant d'avoir essayé les 50 recettes longues en bouche de son livre de secrets, qui s'intitule, je vous le rappelle, je le cherche, Le secret des Vietnamiennes par Kim Thuy, et c'est publié aux éditions Très Carré, la chronique de José Blanchette jusqu'au dernier grain de riz jasmin. Kim Thuy nous livre le secret des Vietnamiennes. Cette semaine, nous vous présentons de nouveaux produits propulsés par deux artistes québécoises qui se sont associées avec des marques d'ici spécialisées dans les produits cosmétiques naturels. C'est dans la presse Pose Chic, Iris Gagnon Paradis. Quiconque s'intéresse de près ou de loin à la beauté verte au Québec connaît l'entreprise Druide, une pionnière au pays en matière de soins naturels et biologiques depuis 1979. Pas étonnant donc que France d'Amour ait sélectionné l'entreprise pour concevoir sa nouvelle gamme de soins pour le visage et le corps BioLove, dont l'ingrédient vedette est l'aloe vera. Préoccupée depuis longtemps par la qualité des aliments qu'elle consomme, l'artiste s'est intéressée davantage aux produits qu'elle applique sur son corps à la suite d'un diagnostic de kératose sur sa peau, un pré-cancer. En plus de l'aloe vera qui a des propriétés hydratantes et antibactériennes et qui convient à toutes les peaux, même les plus sensibles, les soins tous fabriqués au Québec contiennent des ingrédients naturels comme l'extrait et l'huile de canneberge pour assurer l'élasticité et la souplesse de la peau et de l'extrait de feuilles de camélia riche en antioxydants et aux propriétés anti-âge. La gamme BioLove est en vente dès maintenant chez Jean Coutu, Avril, Rachel Berry et dans plusieurs autres points de vente à un prix variant entre 26,95 et 49,95. ambassadrice de la gamme québécoise de soins de la peau biologique et naturelle Corpa Flora et marraine de la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, l'artiste Loulou Hughes fait d'une pierre deux coups en s'associant à Céline Champigny de Corpa Flora pour le lancement en édition limitée du démaquillant et nettoyant pour le visage Sweet Orange Blues. Le lancement de l'huile démaquillante coïncide avec celui de la campagne de financement pour le Centre intégré de cancérologie de l'HMR et 50 % de son prix de vente ira à la Fondation. 29,99 offert en ligne et dans les points de vente Sweet Orange Blues.
La chanson La Révolte que nous chantait Samuel. Sachez que Samuel sera à la Sala Rossa le 8 novembre et qu'elle présentera son spectacle accompagné de deux interprètes en LSQ, donc la langue des signes québécoise. Et ne manquez pas aussi son entrevue avec Clotilde Seille dans le cadre de l'émission Aime la vie qui sera en onde lundi le 6 novembre prochain.
Actualité internationale, expression de l'année fake news. Selon les éditeurs du dictionnaire anglais Collins, fake news est l'expression de l'année, définie comme de l'information fausse, souvent sensationnaliste, disséminée sous l'apparence de reportages d'actualité. Le terme fétiche du président Donald Trump a connu une augmentation dans son utilisation de 365% l'an dernier. L'armée syrienne, appuyée par son allié russe, a repris la ville de Deir ez-Zor au groupe djihadiste État islamique, a indiqué hier l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'information n'a pas été confirmée de sources officielles, mais les médias syriens ont fait état plus tôt hier d'une importante avancée de l'armée dans cette ville de l'est du pays, chef-lieu d'une province riche en pétrole frontalière de l'Irak. Les forces du régime et leurs alliés, avec le soutien de l'aviation russe, ont repris le contrôle total de la ville de Deir ez-Zor, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé en Grande-Bretagne. L'Observatoire et les médias officiels syriens avaient auparavant indiqué que les troupes du régime syrien avaient capturé trois nouveaux quartiers aux djihadistes et resserraient l'étau sur la ville. Une source militaire avait pour sa part affirmé qu'elle contrôlait plus de 80 % de la cité. Le président islandais a chargé hier la dirigeante du mouvement Gauche Vert, Katrín Jakobsdóttir, qui jouit d'une immense popularité en Islande, de former le prochain gouvernement, un processus incertain pouvant prendre des semaines dans cette île secouée par des scandales politiques à répétition depuis presque 10 ans. S'ils concluent leurs négociations avec succès, le mouvement Gauche Vert et ses alliés potentiels, l'Alliance, le Parti pirate et le Parti du progrès, formerait le deuxième gouvernement de coalition dominé par la gauche depuis la proclamation de la République en Islande en 1944. En vertu du système islandais, le chef de l'État, qui a un rôle essentiellement protocolaire, charge le chef du parti arrivé en tête de former un gouvernement. Il devait donc logiquement désigner Bjarni Benediktsson, mais les électeurs ont sanctionné les formations de droite et le premier ministre sortant semblait incapable de trouver des partenaires solides pour constituer une majorité. Aung San Suu Kyi s'est rendue pour la première fois hier dans l'ouest de son pays où l'armée est accusée par l'ONU d'épuration ethnique visant la minorité musulmane Rohingya, dont plus de 600 000 membres ont fui au Bangladesh en 2 mois. La Nobel de la paix est très critiquée à l'étranger pour son peu d'empathie envers les Rohingya, considérés comme une des minorités les plus persécutées du monde. Elle s'est rendue hier dans des villages dévastés et est allée à la rencontre de plusieurs communautés. Le whisky Macallan millésimé 1878, dont un Chinois avait dégusté en août un verre qui lui avait coûté 9 999 francs suisses, l'équivalent de 12 825 $, dans un hôtel de la station de sport d'hiver suisse ultra chic de Saint-Moritz, était un faux, selon le site internet 20minutes.ch. Contacté à plusieurs reprises par l'AFP, l'agence France-Presse, le Valdos Hotel, qui avait vendu ce breuvage à son client, n'a pas donné suite, mais a publié hier sur sa page Facebook l'article du site d'information suisse. Cet hôtel abrite un bar, le Devil's Place, inscrit dans le Guinness Book des records pour sa collection sans équivalent de whisky. Début août, il avait vendu à un amateur chinois un verre de ce Macallan, dont la bouteille avait été spécialement ouverte pour lui. Le prix exorbitant de ces 2 centilitres avait attiré l'attention et des critiques s'étaient interrogées sur l'authenticité d'une telle bouteille. Selon 20minutes.ch, une expertise a été réalisée et la boisson dégustée par le client était en fait un whisky conçu près d'un siècle plus tard, entre 1970 et 1972. Pour enrayer la disparition des éléphants au Laos, des chercheurs préconisent la mise en place de congés de maternité pour que les éleveurs ne fassent plus travailler les femelles pendant la période de gestation. Le travail des éléphants domestiques impacte fortement leur fécondité, explique Gilles Maurer, chercheur et co-auteur de l'étude parue dans Scientific Reports. La longue gestation, 22 mois, et la période d'allaitement, 2 ans, ne sont pas compatibles avec le travail de la femelle, en particulier pour l'industrie de débardage du bois, ajoute-t-il. Or, le travail des éléphants s'est intensifié au Laos. Les chercheurs estiment qu'il faudrait mettre en place des congés de maternité compensant la perte financière des éleveurs, ce qui leur permettrait de se passer des services des femelles pendant cette longue période et de sauver le petit à naître. Le Laos, autrefois surnommé le pays du million d'éléphants, n'en compte plus qu'environ 800. La moitié vivent à l'état sauvage, l'autre moitié étant domestiquée. Les actualités culturelles, revue de l'année Tourlou 2017, revivre 2017 à la manière des Appendices, le groupe humoristique. Les Appendices, en tournage pour sa revue de l'année 2017, concocte un retour en force pour cette émission spéciale un an avant, après l'annulation de sa série. C'est un article de Marissa Grosguet dans la presse d'aujourd'hui. De retour dans les studios de Télé-Québec, Dave Bellil, Anne-Élisabeth Bossé, Sonia Cordeau, Julien Corriveau, Jean-François Chagnon, Dominique Monplaisir et Jean-François Provençal se disent heureux d'être réunis dans ce contexte de tournage qu'ils ont partagé durant 9 saisons. Les 7 membres des Appendices sont en plein préparatif du Tourlou 2017. Tourlou, c'est comme un mot plus cute pour bye-bye, explique Anne-Élisabeth Bossé. C'est à la fois dégueulasse et cute, c'est bizarre, mais attachant, renchérit Jean-François Chagnon. Un titre qui évoque le bye-bye, cette revue de fin d'année qui n'aura presque rien à voir avec le concept pensé par les Appendices. C'est comme si nos personnages revivaient l'année à leur manière, indique Jean-François Chagnon. Ça reste dans notre ton complètement absurde, mais avec un fond d'actualité. Les téléspectateurs auront droit à des sketchs inspirés des nouvelles de la dernière année. On parle du consentement, de la politique américaine, de politique québécoise, énumère Jean-François Chagnon. Ce sont nos personnages qui sont confrontés à ce qui se passe dans le monde, Jean-François Chagnon vient pour le citer. Les comédiens n'ont pas prévu de rétrospective rigoureuse de tous les événements marquants de l'année, mais plutôt un amalgame de sketchs, de parodies, un retour sur des personnages d'Internet, des affaires qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, ponctué d'apparitions d'invités spéciaux, dont Safia Nolin et Gabriel Nadeau-Dubois. Les gens vont quand même reconnaître l'année dans ce qu'on fait, rassure Julien Corriveau. On est vraiment content de se retrouver et de retrouver toute l'équipe, déclare Jean-François Chagnon. On s'est un peu éparpillé parce qu'on n'avait pas de projet qui nous rassemble tous, mais c'est ça qu'on aime faire, des niaiseries entre amis, dit Julien Corriveau. Le cinéma français s'est déjà mieux porté sur nos écrans, très populaire au Québec dans les années 1980-1990. Les films en provenance de l'Hexagone ont continuellement perdu du terrain dans les cinémas de la province pour se faire de plus en plus rares aujourd'hui. C'est un texte de Maxime Demers dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Les amateurs de cinéma français, j'en suis, n'ont pas toujours été gâtés ces dernières années au Québec. Les quelques films français qui réussissent à se frayer un chemin sur nos écrans de nos jours sont trop souvent lancés discrètement et dans un minimum de salles. Elle est loin, très loin, la belle époque où les Pierre Richard, Thierry Lhermitte et autres grandes stars du cinéma français débarquaient en grande pompe à Montréal pour présenter leurs nouveaux films au public québécois. Voilà pourquoi l'évolution d'un film comme d'un festival plutôt comme Cinémania, dont la 23e édition a été lancée hier, peut être perçue comme un cadeau du ciel pour les amateurs de cinéma français. Au cours des dernières années, cet événement dédié au cinéma francophone s'est positionné comme un des rendez-vous cinématographiques les plus importants de l'automne à Montréal. Et il a redonné une bonne dose de glamour à un cinéma français qui avait quelque peu perdu de son lustre au Québec. La recette de Cinémania est simple, offrir aux cinéphiles montréalais la crème du cinéma français et francophone. Le festival a d'ailleurs pris son envol hier soir avec la première québécoise du film « Le sens de la fête », la nouvelle comédie des réalisateurs Olivier Nakache et Éric Toledano, les réalisateurs du film « Intouchables », qui cartonne depuis quelques semaines en France. Au cours des 10 prochains jours, les festivaliers pourront découvrir en primeur des dizaines de films français ou francophones, attendus, dont plusieurs qui se sont déjà illustrés dans de grands festivals comme Cannes. D'après mes calculs, environ la moitié des 54 films présentés à Cinémania cette année n'ont pas encore trouvé de distributeur au Québec. C'est peu. Et ça veut dire que Cinémania représente la seule chance pour le public québécois de voir ces films. De nouvelles accusations de harcèlement sexuel ont émergé hier au Royaume-Uni contre Kevin Spacey, provenant notamment d'un ancien employé du théâtre londonien Old Vic, accusé d'avoir fermé les yeux sur les agissements de l'acteur américain qui en fut le directeur artistique durant 11 ans. « Je l'ai vu tripoter des hommes à maintes reprises dans toutes sortes de situations différentes, dans son appartement de North Lambeth et même à Old Vic et dans son pub favori », a témoigné l'ancien employé dans le quotidien The Guardian, sous couvert de l'anonymat. Il tirait avantage du fait qu'il était une grande icône. Il touchait des hommes à l'entrejambe en le faisant très rapidement, de sorte qu'il ne pouvait pas s'écarter de son chemin, a-t-il ajouté. « Ce qui me fâche, c'est l'hypocrisie de lieux comme Old Vic qui affirme aujourd'hui ne pas avoir su », a-t-il poursuivi. L'enregistrement du prochain album en anglais de Céline Dion se poursuit. La chanteuse a publié hier matin sur Instagram 3 photos d'elle en studio d'enregistrement. « J'ai tellement de plaisir en studio, je me sens comme à la maison », écrit la diva. Ce nouvel opus devait initialement sortir cet automne, mais durant son passage à Montréal en août dernier, pour lancer sa collection de sacs à main, Céline Dion a indiqué qu'il paraîtrait en 2018. Bien qu'aucune date de sortie n'ait encore été fixée, on sait que cet album devrait comprendre au moins une chanson composée par Sia, puisque cette dernière a récemment écrit 3 pièces pour l'interprète québécoise. Marc Dupré a lancé hier son 6e album, « La vie qu'il nous reste » dans un MTLUS rempli à pleine capacité. C'est d'ailleurs un véritable concert que l'actuel coach de La Voix Junior a proposé pour l'occasion à ses nombreux admirateurs. « Chaque chanson représente quelque chose d'important pour moi, chacune a une signification, mais je ne veux pas tout expliquer », a-t-il précisé. « Je veux laisser aux gens la possibilité de se faire leur propre histoire ». Dans le soleil d'aujourd'hui, chronique de Mylène Moisan, une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? La bonne ou la nouvelle? La mauvaise, écrit Mylène Moisan. La bonne, tiens. Je vous ai parlé le 13 octobre d'un gars de 44 ans, Martin, atteint de sclérose en plaques, qui s'était fait voler son fauteuil roulant motorisé en plein jour, en l'espace de quelques malheureuses secondes, alors qu'il l'avait quitté des yeux pour aller aux toilettes. Et puis, pouf, plus de fauteuil. Le fauteuil qui lui avait été fourni par l'Institut de réadaptation déficience physique du Québec, il a appelé pour savoir s'il pouvait en avoir un nouveau. On lui a appris qu'il avait droit d'en avoir un aux 5 ans, qu'il lui restait un peu plus de 2 ans avant de le remplacer. Ça voulait dire plus de 2 ans à tourner en rond chez lui, plus de 2 ans sans pouvoir aller seul à l'épicerie pour s'acheter une douzaine d'œufs. Vous avez été nombreux à être touchés par l'histoire de Martin. Quelques heures après la publication, ma boîte de courriel avait des allures de Kijiji. Des personnes se sont spontanément offertes pour lui donner ou lui prêter un nouveau fauteuil motorisé ou un quadrimoteur. Des gens ont offert de l'argent pour lui en acheter un nouveau. D'autres m'ont raconté d'autres histoires de vol. La palme va à cet homme dont la mère s'est fait voler sa marchette qu'elle avait laissée à la porte de la chapelle des Ursulines. Une amie a voulu lui prêter une canne rétractable qu'elle avait toujours avec elle au cas où, disparue aussi. C'est l'enfer direct. Revenons à Martin. Le bureau de la députée Agnès Maltais a contacté les gens de l'Institut où déjà on avait commencé à étudier les options de Martin pour lui procurer un autre fauteuil. Les options sont rares. La RAMQ ne couvre qu'un certain nombre de modèles qui figurent sur une liste précise. Des fauteuils qui coûtent entre 7 000 et 9 000 $. Un conseiller de Mme Maltais a fait une demande en son nom à la RAMQ. Ça ne coûte rien d'essayer. Martin a donc accepté l'offre d'une famille qui lui a offert le fauteuil motorisé dont le père ne se servait plus. Le véhicule n'a pas une très grande autonomie, mais bien assez pour aller s'acheter des œufs. « Le petit fauteuil me convient parfaitement pour la maison et les commissions », m'a écrit Martin, qui a retrouvé une partie de son autonomie et par le fait même de son moral. La mauvaise maintenant. Le meurtrier avait été reconnu coupable par un jury de meurtre au premier degré. « Il a eu 25 ans ferme », m'avait dit Lise, soulagée de pouvoir tourner la douloureuse page du processus judiciaire. Elle venait de recevoir 4 ans après son décès les effets personnels de sa fille, pour ce qui en reste. Ils m'ont envoyé sa sacoche et aussi une petite enveloppe avec le collier qu'elle portait. Il est plein de sang. Je vais brûler ça pour franchir une autre étape du deuil. Elle ne pourra pas la franchir. Pas encore. La semaine passée, Lise a été informée que la demande d'appel du meurtrier a été acceptée. Ce qui veut dire, en clair, qu'elle aura à revivre une fois de plus le même calvaire, aller entendre encore le récit à glacer le sang des derniers moments de sa fille, relire les dizaines de textos que l'homme a envoyés à une amie pour lui raconter en détail son crime, pour lui dire que tuer, ce n'était pas si pire que ça finalement. Lise a aussi appris quelques jours plus tôt que sa demande d'indemnisation de victime d'actes criminels de l'Ontario, elle, a été refusée. Conclusion? Il n'y aura aucune compensation. Je ne respecte pas le troisième critère qui est à l'effet d'être sur les lieux du crime. Il ne suffit pas visiblement d'avoir à vivre avec l'image de sa fille qui meurt au bout de son sang dans un bain. Image qu'elle devra voir encore et encore, le nouveau procès replongera Lise dans l'horreur de ce sordide assassinat, commis par Jonathan Towson alors qu'il avait 21 ans. Le crack de l'informatique avait invité Corelli chez lui pour la prendre en photo, pour illustrer un jeu vidéo. Il aura pris sa vie, finalement. Et celle de Lise aussi. Chronique de Mylène Moisan dans Le Soleil d'aujourd'hui. Thank you. Halloween et religion, une initiative personnelle suite et fin de la nouvelle que je vous lisais hier sous la plume de Paul Vermeau-Desroches dans le Nouvelliste. L'initiateur du mouvement « Je suis deuxième » dont les cartes d'affaires et la documentation ont été distribuées à des enfants le soir de l'Halloween à Trois-Rivières, à l'intérieur des sacs contenant des bonbons, confirme qu'il s'agissait d'une initiative personnelle de la part de membres de l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières. Appelé à réagir au fait que des parents ont été dérangés par cette distribution à l'occasion de la fête de l'Halloween donnant l'impression d'une tentative de recrutement, Jean-François Moquin indique que le message véhiculé par « Je suis deuxième » ne s'adresse de toute façon pas aux enfants, mais aux adultes. « Nous étions au courant que des gens avaient l'intention de distribuer des cartes d'affaires », indique M. Moquin, précisant qu'il n'avait pas été informé que ce serait à l'intérieur de sacs contenant des bonbons. Toutefois, M. Moquin ne s'indigne pas de l'initiative, au contraire, et ne croit pas que cette distribution ait pu nuire à qui que ce soit. Les gens qui ont fait cette distribution l'ont fait sur un terrain privé et procédaient aussi à la distribution de chocolat chaud pour les parents lors de cette soirée. L'intention était belle, soutient-il, ajoutant que le mouvement « Je suis deuxième » ne s'identifie à aucune église en particulier, mais vise d'abord et avant tout à faire connaître en ligne des témoignages positifs de gens ayant vécu un changement dans leur vie grâce à la foi. Chemin fermé définitivement, Louis-Denis Ebacher dans le droit, la pluie pourrait bien avoir donné le coup de grâce à des chemins de campagne déjà endommagés par les inondations du printemps dernier en Outaouais. Un premier chemin situé à Denholm est démoli à un point tel qu'il pourrait être fermé de façon permanente. Le conseil municipal de Denholm convoque ses citoyens pour une réunion extraordinaire ce vendredi à 18h pour discuter de la situation. Voilà, c'est tout pour les voies de service quotidiens de ce 3 novembre 2017. Je vous souhaite une agréable fin de semaine. Profitez-en bien. Je ne sais pas s'il va faire beau, mais il ne faut pas oublier de reculer l'heure. Donc, on va avoir une heure de sommeil de plus. Ça va être agréable, ça, hein? Faut voir le côté positif des choses, parce qu'il y en a qui disent « Ah, oh, il va faire noir tôt! »
C'est une heure de plus pour préparer le sapin.
Ah oh, non, tout... Cher Mathieu... On ne prononce pas le mot Noël avant le 1er décembre. Alors, voilà. Merci, Mathieu. Pas pour avoir prononcé sapin de Noël, mais pour avoir été là à la mise en onde et au choix musical. Ici Hélène Denis. À très bientôt.